Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau reportage réalisé en pleine crise du Covid-19, en pleine période de confinement. Micro Rebelle a souhaité porter un accent particulier sur ce qu'est la décroissance, notamment parce que de nombreux médias ont assimilé la période actuelle de récession à de la décroissance. C'est ainsi que, au travers de plusieurs échanges, nous donnons la parole à des actrices et acteurs de cette sensibilité, autrement dit, à des objectrices et objecteurs de croissance. Aujourd'hui, je suis avec Bernard Legros. Bernard est objecteur de croissance en Belgique et enseignant. Il a écrit ou co-écrit plusieurs livres qui abordent les questions de la décroissance ou de l'éducation. Il écrit régulièrement des chroniques dans le mensuel français La Décroissance, ainsi que dans Kairos, journal antiproductiviste belge. Alors Bernard, une première question. Il est beaucoup question de l'utilisation du numérique durant cette période de confinement. Au-delà de l'utilisation, qu'est-ce que nous enseigne la crise du Covid à propos des enjeux du numérique?
Le grand danger est ce que Naomi Klein appelle la stratégie du choc ou le capitalisme du désastre, et que les maîtres du monde ne profitent évidemment de cet état de sidération et d'abattement des populations actuelles pour faire passer toute une série de mesures de régression sociale, économique et civile. Et à partir de cette intention politique désastreuse, d'utiliser évidemment l'outil qui est parfaitement adapté à cela actuellement, c'est-à-dire le numérique. Et comme les citoyens étaient déjà, avant la crise du Covid-19, très habitués à utiliser le numérique dans leur vie quotidienne, et bien maintenant qu'ils sont confinés, ça a encore pris une dimension supplémentaire, ce qui évidemment ne laisse pas d'inquiéter sur les capacités d'aliénation que peuvent avoir les écrans et tous les objets technologiques dans la vie quotidienne. Donc ils ont pris de plus en plus d'importance. On sait que la consommation d'Internet a augmenté, forcément, pour les apéritifs virtuels, pour tenir des contacts avec ses amis, sa famille, et qu'on n'a pas trop le choix de toute façon. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui va s'ancrer encore davantage dans les habitus de la population à l'occasion du confinement ou pas? Ça, c'est la grande question. Alors, une fois le déconfinement en marche, est-ce que les gens vont garder le pli de continuer à utiliser, surutiliser Internet? Ou bien au contraire, vont-ils se précipiter vers les relations en direct, physiques, les relations réelles, qui leur auront tant manqué pendant le déconfinement? Donc ça, c'est quelque chose qui est difficile à prévoir. Moi, je souhaiterais évidemment que ce soit la deuxième option, on s'en doute, mais je n'en suis pas du tout certain. Alors ça, c'est du côté de la réaction de la population.
Et du côté de l'industrie du numérique?
Tous les turiféraires, tous les promoteurs de l'économie numérique voient évidemment d'un très bon œil ce qui se passe ici et vont essayer par tous les moyens d'ancrer davantage encore notre dépendance à l'outil Internet. Alors, je vais prendre deux exemples. Le fameux backtracking, le traçage numérique, que de plus en plus les médias sont en train de promouvoir auprès de la population. Donc ils ne sont de nouveau pas du tout impartiaux. Et ils comptent au contraire convaincre la population, les auditeurs et les lecteurs du bien fondé d'un traçage digital des populations. Alors que, comme certains médecins le disent, il n'y a pas du tout besoin d'utiliser le numérique pour établir un certain traçage épidémiologique des malades potentiels. Donc, du temps de la tuberculose, on savait déjà très bien comment effectuer un traçage avant toute existence d'Internet. Bon, mais ça, c'est pas ce qui est à l'ordre du jour, évidemment. Des nouvelles applications avec Bluetooth notamment, pour pouvoir faire ce traçage au mépris de la vie privée, bien qu'on prétende donner des garanties qui sont évidemment totalement illusoires. Qui peut garantir que ces données-là seront détruites après X jours? Évidemment, personne ne peut garantir ça.
Tu évoquais deux exemples.
Moi qui suis enseignant, je suis particulièrement concerné par ce qui se passe avec l'école numérique. Bon, je n'enseigne plus pour le moment, mais je vois ça d'un petit peu loin. Évidemment que l'école numérique, déjà existante avant la crise, a pris encore plus d'importance. Et il y a à craindre qu'on garde le pli, notamment les parents d'élèves, mais aussi les enseignants et surtout les décideurs politiques dans les ministères, qui eux avaient déjà l'intention depuis longtemps, de toute façon, de répandre l'école numérique. Alors ici, ils auront beau jeu de dire que sans cela, nous aurions été dans une fameuse panade, et que heureusement que l'outil Internet était là pour permettre aux élèves de garder la tête hors de l'eau sur le plan des apprentissages. Bon, ça c'est le discours évidemment de promotion. Mais quand on regarde un peu plus près, eh bien, beaucoup de parents ont été sidérés, par exemple, de la quantité de travail que des professeurs, des enseignants pouvaient envoyer à leurs élèves. Des quantités de travail astronomiques, plus que d'habitude, plus que pendant les périodes habituelles et normales, et non seulement des exercices de révision, mais en France en tout cas, des nouvelles matières, ce qui par contre a été interdit par la ministre de l'Enseignement en Belgique, qui a bien dit qu'on pouvait organiser des révisions, des exercices, mais en tout cas ne pas aborder de nouveaux apprentissages. Ce qui est, pour moi, une très bonne décision. Alors, de toute façon, la question, c'est, va-t-on revenir en arrière, ou bien, parce qu'on considère que c'était une période exceptionnelle, ou bien est-ce qu'on aura ce qu'on appelle un effet de cliquet? Et moi, je pense qu'on aura plutôt l'effet de cliquet. Et c'est pour ça que il va falloir se mobiliser, il faut comment déjà le faire maintenant, et essayer de convaincre les parents, surtout eux qui sont les acteurs pivots dans l'affaire, que l'école numérique ne peut être qu'un pis-aller en matière d'apprentissage, de pédagogie, et que le présentiel, comme on dit en langage managérial, est quelque chose d'absolument irremplaçable, et c'est par là que passe d'ailleurs tout acte pédagogique.
Il n'y a apparemment plus de doute. Nous sommes en pleine récession économique. Cette récession, est-ce que c'est de la décroissance?
Je dirais oui et non, mais principalement non. Alors pourquoi est-ce que ça pourrait être oui? C'est-à-dire qu'il y a effectivement une décroissance du produit intérieur brut, qu'on le constate, mais c'est une décroissance qui est subie et qui provoque pas mal de souffrances pour beaucoup de travailleurs, notamment des indépendants. Il ne faut pas se réjouir, évidemment, de ce type de décroissance. Alors, bien entendu, les ennemis de la décroissance, comme Luc Ferry, ont déjà sauté sur l'occasion pour clamer dans les médias que, voilà, où pouvait mener la décroissance. Alors, pas du tout, évidemment. Dès le départ, les objecteurs de croissance ont toujours dit que la décroissance était quelque chose d'à la fois inévitable et de souhaitable. Et comme c'est souhaitable, il fallait l'organiser, il fallait l'anticiper, et il fallait le choisir. Ce que nous n'avons pas fait. Maintenant, est-ce que cette décroissance subie peut se transformer plus tard en décroissance choisie? Ça, de nouveau, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre actuellement. Tout dépend aussi de la propagande que nous aurons dans les médias. Cette propagande, évidemment, dans les médias traditionnels, les grands médias, ne sera évidemment pas favorable à l'idée de décroissance. Donc ils essaieront d'amalgamer celle-ci avec la récession ou même la dépression économique. Enfin, ce qui se passe montre bien qu'une société de croissance sans croissance est la pire des choses, comme disait déjà Serge Latouche il y a 15-20 ans d'ici.
Ainsi, est-ce qu'il est possible de « profiter » entre guillemets de la période en cours pour s'interroger sur ce qu'est ou devrait être la décroissance ?
La décroissance sera choisie, si possible, et c'est une occasion historique de réfléchir à nouveau à cette idée qui existe depuis 18 ans, très exactement, depuis 2002, mais qui n'avait encore jamais réussi à franchir le pas de l'expression politique. Elle est très présente dans le débat philosophique, chez les écologistes et même chez les militants en général, mais elle n'a encore jamais réussi à infuser dans aucun parti, par exemple dans aucune liste électorale, qui ait eu un résultat électoral probant, qui l'aurait fait participer, par exemple, à une mandature ou une législature. Donc, est-ce qu'on va réussir à impulser l'idée de la décroissance? Moi, j'espère que oui, évidemment. C'est le moment de faire de la pédagogie. C'est le moment aussi de montrer que des alternatives peuvent apporter une réponse à une sortie de crise, des alternatives de solidarité, à une condition, bien entendu, c'est que les forces de l'ordre ne nous en empêchent pas. Parce qu'on oublie souvent que là est un point principal du changement politique. Tant que les forces de l'ordre restent au service des puissants et répriment durement les initiatives qui ne vont pas dans le sens de l'idéologie dominante, moi je pense qu'il n'y aura pas de changement politique d'envergure possible. Bon, c'est peut-être un peu désespérant, mais ça veut dire que nous devons essayer de convaincre les forces de l'ordre ou une partie d'entre elles de ne pas nous mettre des bâtons dans les roues, de ne pas nous entraver. Nous avons besoin qu'on nous laisse tranquille. Nous avons besoin qu'on nous laisse la bride sur le cou pour expérimenter. C'est au moins cela dont nous avons besoin.
On a évoqué, dans un premier temps, la question du numérique en période de confinement. Et dans un deuxième temps, ce qu'est ou devrait être la décroissance. Pour faire un lien entre ces deux aspects, est-ce qu'on peut imaginer que le numérique serve la décroissance, s'inscrive dans une perspective de décroissance ?
Bon, pour moi, la réponse est non. Le numérique est antinomique avec une perspective de décroissance. La décroissance, c'est le rejet de la société industrielle. Et s'il y avait quelque chose qui symbolise la toute-puissance de l'industrialisme, c'est Internet et la toile, les fermes informatiques, etc. Les serveurs et tout l'appareillage indispensable pour faire fonctionner le système. Donc je ne peux pas imaginer qu'on puisse récupérer d'une manière ou d'une autre le numérique dans une perspective de décroissance. Je sais que certains penseurs l'ont fait, notamment Thierry Caminel de l'Institut Momentum. On a lu aussi des choses un peu similaires chez Dominique Bourg et Christian Sperger, mais ce n'est pas très clair. Il y a eu comme une espèce de volonté de mettre les algorithmes au service d'une politique de décroissance, mais je ne vois pas comment on peut faire cela d'un point de vue philosophique. Retourner les armes de l'adversaire contre lui, je n'y crois pas. Et d'un point de vue strictement matériel et physique, force est de constater que Internet est tellement énergivore qu'il serait temps de s'en passer le plus vite possible avant d'arriver à des catastrophes énergétiques telles qu'elles nous sont prédites pour les années qui viennent. Rappelons donc Andrew Ellis, qui est un chercheur de l'Université de Bristol, a fait des calculs prospectifs pour montrer que en 2023, si le trafic continue à croître comme il le fait actuellement, eh bien Internet tombera en panne, tout simplement, faute d'énergie suffisante pour alimenter les bandes passantes avec des milliards et des milliards de téraoctets qui seront échangés quotidiennement dans le monde. Voilà, donc pas de possibilité de récupérer la décroissance, le numérique, dans une société vers la transition décroissante.
Et donc, qu'est-ce qu'on fait d'Internet ?
Alors maintenant, évidemment, on peut toujours très pragmatiquement utiliser la toile telle qu'elle fonctionne actuellement pour répandre les idées de la décroissance, ce que je fais moi-même, ce que beaucoup font. tout en sachant que cela finira un jour et cela doit finir un jour. Et d'habitude, dans les débats, je dis un peu avec provocation que s'il y avait une hypothèse théorique, évidemment, une pétition pour qui réclamerait la suppression, l'arrêt définitif d'Internet, comme on demande l'arrêt immédiat du nucléaire, eh bien, je serais le premier à signer cette pétition. Voilà. Mais tant qu'évidemment que le système existe, je l'utilise assez parcimonieusement, mais j'espère un jour connaître un monde sans Internet avant de mourir. Donc, je ne sais pas si ce sera possible, mais enfin, je l'espérerai. Je suis prêt, moi, en tout cas, à m'en passer et à revenir à des formes de communication plus anciennes, plus écologiques, moins rapides, et beaucoup plus à taille humaine, et beaucoup plus adaptées à notre métabolisme, à notre cerveau, à notre énergie, puisque de toute façon, il faudra relocaliser, eh bien, nous aurons moins besoin d'avoir un système qui nous permette de communiquer à l'autre bout de la planète pour un coût financier dérisoire, mais pour un coût écologique absolument impayable.